Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Aujourd'hui, pour le 42e épisode, nous recevons Fatma, journaliste et créatrice du média et podcast Arabia Vox, dans lequel elle aborde l'identité culturelle arabe avec ses invités. Pour l'épisode et les photos, Fatma a porté le livre Hishouma de Zainab Fasiki, dont nous vous avions déjà parlé sur Dialna. Elle apprécie particulièrement la manière dont l'illustratrice a traité les sujets du corps, de la sexualité et des tabous. Dans cet épisode, elle nous parle donc de son goût pour la lecture. Enfant, alors qu'elle vivait encore en Tunisie, son père lui lisait régulièrement des histoires, puis elle s'y est mise toute seule, avec des romans en arabe et en français à son arrivée en France. Fatma raconte également comment, en grandissant, elle a ressenti le besoin de découvrir d'autres auteurs, des auteurs racisés et des femmes, pour découvrir des cultures différentes et lire des histoires dans lesquelles elle peut se reconnaître. Elle aborde aussi les stéréotypes auxquels elle a dû faire face pendant sa scolarité, en tant qu'amatrice de théâtre, de littérature et de femme maghrébine. Les livres qui ont marqué Fatma et qu'elle nous recommande en fin de podcast sont Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, qui parle d'exil, Le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, pour les réfractaires à la lecture, et enfin Marx et la poupée de Mariam Majidi, une autobiographie romancée de l'auteur qui parle aussi d'exil. Alors je tiens à remercier particulièrement Fatma pour sa générosité et sa patience lors de l'enregistrement très perturbé par des lacunes techniques de cet épisode. Elle a été parfaite. N'hésitez pas à aller voir et écouter le podcast Arabia Vox, de vous y abonner, tout comme Ma Jamais sans mon livre. Parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux s'ils vous ont plu. Comme d'habitude, les photos et les références littéraires de Fatma sont à retrouver sur notre site dialna.fr. Et maintenant, place à Fatma.
J'ai choisi de lire Hishouma de Zainab Fasiki, Corps et sexualité au Maroc. Parce que c'est un roman graphique qui me parle pour plusieurs raisons. Donc déjà parce qu'il est écrit par une femme racisée, par une femme nord-africaine, parce qu'elle parle de sujets qui me touchent et qui me concernent directement, c'est-à-dire le corps, la sexualité, le tabou qu'il peut avoir autour de tout ça. Elle parle au Maroc, mais moi en tant que Tunisienne, je m'y reconnais aussi. Parce que malheureusement on partage beaucoup de choses sur ces questions-là, parce que aussi c'est un très bel objet, puisqu'il y a énormément de dessins, on sent que c'est aussi très personnel, ces dessins en fait ils ne ressemblent pas aux autres, c'est vraiment centré à elle, c'est vraiment ses interprétations à elle. Et puis j'aime beaucoup aussi ce truc de pédagogie, en fait, ce typiquement ça je pourrais le prêter, je sais pas, à une collégienne pour qu'elle y apprenne des choses que moi j'ai pas pu apprendre parce que j'avais pas ce genre d'ouvrage là à disposition. Pour mes achats de livres, c'est plutôt des achats compulsifs. Dans le sens où je suis une acheteuse compulsive, mais pas que pour les livres. En fait, j'ai tendance à me diriger toujours vers les rayons livres dans les supermarchés. Dès que je vois une librairie, je vais m'arrêter. Quand je passe dans un Gilbert Jeune, je vais m'arrêter et je vais un peu faire le plein. Après, comment je l'ai choisi ? En général, c'est beaucoup des recommandations. Je sais que j'ai à mon tour, mais avec mes amis, on aime bien lire. Donc du coup, on se recommande plein de livres et surtout, on aime bien lire aussi sur les mêmes sujets, que ce soit sur le féminisme, sur les questions de genre. On a aussi cette curiosité d'apprendre plus sur ces questions-là parce que pour plusieurs d'entre nous, on n'en savait pas avant ces dernières années. Et du coup, ouais, c'est surtout en fait des recommandations. Après, ça m'arrive de prendre des livres juste parce que la couverture j'adore ou juste parce que le titre me parle, mais rarement parce qu'en général, je vais forcément lire la quatrième de couverture et en fait, ça va être vraiment axé sur un sujet qui m'intéresse. Donc, soit par exemple la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, soit sur le féminisme, soit sur les questions de genre, soit sur je sais pas, les banlieues, sur la culture, sur un artiste que j'adore. C'est vraiment en fait par thème, c'est les thématiques qui m'intéressent. Alors, quand j'étais petite, je voyais souvent mon père lire, parce qu'il adorait lire. Il lisait de la littérature arabe essentiellement, même s'il est bilingue en français aussi, qu'il lit le français. Mais lui, sa première culture, c'était vraiment l'arabe. Donc, du coup, il lisait beaucoup en arabe, il lisait beaucoup à voix haute. Donc, du coup, nous, forcément, l'écouter. Et en plus, comme il a une belle voix, ça, forcément, ça nous attirait. Moi, j'ai grandi beaucoup avec les contes en fait, comme un peu en France, mais c'était les contes plus répandus dans le monde arabe, et beaucoup aussi avec des récits coraniques qui sont inspirés des vies des prophètes ou des récits bibliques, et on les considérait pas tant en tant que récits religieux, mais vraiment comme des histoires à part entière qu'on se racontait même entre nous. Quand j'étais petite aussi à l'école, vu que l'arabe c'était ma langue maternelle et qu'à l'époque je la maîtrisais bien, je lisais beaucoup aussi de romans en arabe. Après qu'on arrivait en France, mon père lisait de moins en moins parce qu'il travaillait beaucoup, il était chauffeur routier, donc du coup il se déplaçait beaucoup. Mais il nous a fait la première chose qu'il a fait quand on a déménagé, c'était une bibliothèque avec plein de livres. À chaque fois qu'on sortait, il rajoutait des livres, etc. Donc du coup, on m'a toujours encouragée, on m'a toujours poussée vers cette voie-là. Et moi, je suis arrivée à cette pratique-là en fait un peu naturellement. En fait, je sais pas, genre, j'ai toujours été attirée par ça. À chaque fois, j'allais, que ce soit au début des petits magazines, après des romans plus ou moins gros. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui était valorisé. Mon père, il était plutôt fier de moi, quand ma mère aussi d'ailleurs. Ils étaient fiers de moi quand je lisais. Dernièrement, j'essaye aussi de partager ça avec une de mes sœurs qui, elle, lit moins, mais je sens qu'elle a aussi une volonté en fait de s'approprier cette pratique-là qu'elle n'a pas eue. Après, c'est toujours compliqué en fait d'arriver et de se dire on va avoir une pratique qui nous a été un petit peu interdite et un peu éloignée. Donc du coup, faut toujours un temps pour y arriver et pour aussi trouver ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est comme tout quoi. Alors, j'ai pas forcément cherché à lire des auteurs racisés au début. Au début, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire, enfin, j'ai commencé vraiment à lire quand j'étais au collège. C'est vraiment au collège où, genre, des fois, je faisais des nuits blanches, je lisais et tout. Mais non, au début, c'était vraiment des romans, moi, comme plein de gens de ma génération. Par exemple, c'était les Harry Potter, c'était aussi des romans à l'école. J'avais pas l'impression que des auteurs racisés existaient, entre guillemets. En tout cas, on leur donnait pas de l'importance, que ça soit à l'école ou même autour de moi, quoi. J'en voyais pas beaucoup. Et j'ai vraiment pris conscience de ça, entre guillemets, quand j'étais en quatrième, et on est allé au salon du livre, donc avec l'école, comme tous les ans. Et on nous donnait tout le temps des petits chèques pour pouvoir acheter des livres. Et en fait, j'avais acheté un livre, donc celui de Khaled Hosseini, qui s'appelle Les Servants de Kaboul. Et en fait, je l'ai acheté, non pas parce que je voulais le lire, ou je me disais, ah, il a l'air génial, mais parce qu'en fait, à ce moment-là, avec mes chèques, genre, j'essayais d'acheter le plus de livres possible. Moi, par exemple, les livres que j'achetais aussi à cette époque, c'était, je sais pas si les gens se souviennent de la série Charmed, mais en fait, de base, c'était des livres. Et du coup, j'achetais les livres pour pouvoir dire si c'est aussi bien que la série et tout. Et en fait, les Servants de Kaboul, c'était vraiment l'achat que je pouvais me permettre avec le reste des chèques. Mais c'était pas non plus la folie, quoi. Et en fait, en l'achetant, enfin, ça a été une claque vraiment monumentale. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est le meilleur livre que j'ai lu. Mais parce que la première fois de ma vie que j'entends parler de l'histoire d'un exil, c'était la première fois de ma vie aussi que je lisais un truc sur l'Afghanistan. Je sais pas, quand on grandit, c'est pas forcément un pays dont on parle beaucoup. Enfin, t'entends des trucs à la télé sur la guerre, les talibans, etc. Mais tu sais pas vraiment ce que c'est l'Afghanistan. Enfin, je veux dire, l'Afghanistan, c'est pas juste une guerre ou un contexte géopolitique compliqué. C'est un pays, c'est une culture. Donc ouais, moi c'était la première fois de ma vie que je lisais un truc sur l'Afghanistan et que je me disais, ah bah ça c'est un pays, en fait Kaboul c'est une ville, etc. Et aussi ouais, donc l'histoire de ce garçon qui a grandi en Afghanistan, qui a dû quitter son pays pour aller dans un autre pays, qui va se retrouver avec une double identité, et je me suis totalement reconnue dans ça. Et après, en fait, au fur et à mesure, comme en, que ça soit pour la musique, pour les films, pour les livres, en fait, on est toujours poussé à regarder un peu toujours dans la même aire géographique, quoi, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis. On va pas te dire d'aller regarder des films qui sont en Côte d'Ivoire ou en Chine. Donc, du coup, j'ai un peu grandi avec ça, quoi, en regardant toujours les mêmes choses. Et parce qu'aussi j'avais ce complexe-là de me dire, moi je vais faire comme les Français, je vais regarder des comédies françaises, même si elles sont nulles, et je ne veux pas aller voir ailleurs. Et en fait, en arrivant beaucoup plus tard, j'ai commencé un peu à me questionner sur ça, sur ce complexe-là de vouloir toujours privilégier la culture française, de me renier un peu aujourd'hui, enfin je le dis totalement, même si à l'époque j'étais en mode non, c'est pas parce que je m'appelle Fatma que je suis arabe que je dois, mais je sais quand même une période j'essaie de me renier parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre, quoi. Et du coup, mes lectures ont suivi en comprenant, grâce notamment donc au livre d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières, en comprenant que moi, en tant que, en fait, qu'il n'y a pas de mal à être française, à s'appeler Fatma et à lire des auteurs racisés parce que je m'y reconnais aussi plus. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire plus d'auteurs racisés. Et je sais pas si c'est l'impression, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes. En tout cas, moi, je suis contente de pouvoir lire des femmes aussi parce qu'elles abordent des questions qui me parlent directement, comme là, Zeynep Fassiki, je pense aussi à Faïza Guen, Safia Azzedine, que, enfin, vraiment, j'ai lu l'été dernier pour la première fois Confession à Allah de Safia Azzedine, et même si je suis un milieu de la vie du personnage, vraiment en fait, quand elle parle de l'hypocrisie générale, de comment on utilise un discours religieux pour imposer des choses aux femmes, comment aussi on arrive à te faire croire à toi-même en tant que femme ce que t'es, ce que tu dois faire et ce à quoi t'es dévouée. Et en ça, ouais, les auteurs racisés et surtout les auteurs qui sont d'origine, donc soit nord-africaine, soit du Moyen-Orient, moi, elles m'aident beaucoup. Et du coup, je les privilégie beaucoup plus dans mes lectures aussi. Alors, on m'a souvent fait remarquer que, en tant que femme arabe, la lecture, c'était pas forcément une pratique à laquelle j'étais destinée. En fait, ça a commencé, vraiment, ces premières remarques-là, ça a commencé quand j'ai quitté le lycée, quand j'ai eu mon bac. En fait, j'avais fait un bac L et j'avais pris une option théâtre. Et c'était une option qui était vraiment très, très, très lourde, où je lisais vraiment énormément de pièces. Je lisais des tragédies grecques, je les jouais aussi, donc du coup j'apprenais les textes, je jouais devant un public à la maison culturelle de Bobigny, et je faisais aussi beaucoup de théories où j'avais appris l'histoire du théâtre, etc. Et en dehors de ça, j'aimais beaucoup lire les pièces de théâtre. Et donc quand j'ai eu mon bac, j'avais commencé à faire une licence d'art du spectacle à Nanterre. Et en fait, bah, comme la plupart des filières artistiques ou littéraires, c'est pas là que tu trouveras le plus de racisés, quoi. Donc pour la faire courte, je crois que j'étais la seule arabe où on était deux, un truc comme ça. Et en fait, moi, comme j'avais fait un bac en option théâtre, c'était ma plus grande option. Genre, c'était, je me sens plus des coefs, mais c'était autant de coefs que la philo, qui est le plus gros coef du bac littéraire. Et en fait, quand j'ai commencé à parler en cours, quand la prof posait des questions, bah du coup, moi, j'avais vraiment les bases. Je connaissais bien que ça soit Shakespeare, que ça soit Eschyle, que ça soit Corneille, que ça soit Brecht. Bref, je connaissais bien les pièces et tout. Et vraiment, en fait, à l'époque, j'arrivais pas à le définir parce que moi, j'ai grandi dans le 93 où je connaissais pas le racisme dans le 93. Je dis pas que ça existe pas, mais moi je le connaissais pas parce que dans le 93, moi j'ai grandi avec des Portugais, des Serbes, des Français, des Espagnols, des Sénégalais. En fait, quand je suis arrivée dans cette licence-là, c'était la première fois que je me retrouvais en étant genre en minorité. Et vraiment, genre, je me souviens après un cours, genre, il y avait plusieurs personnes de cette licence qui sont venus me voir. Et c'était au début, donc je ne parlais pas forcément à tout le monde. Et ils m'ont dit, vraiment mot pour mot, on ne pensait pas que tu étais comme ça. Et j'étais en mode, mais pourquoi? Genre, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Enfin, c'est bizarre quoi. Et ils m'ont dit, on ne pensait pas que tu parlais comme ça. Que tu savais ça, que. Et moi, franchement, à l'époque, j'avais 18 ans, je comprenais pas ça. Et j'étais en mode, ah bah merci et tout. Et franchement, quand je repense au fait que j'ai dit merci, mais. Enfin, j'étais là en mode, bah merci, c'est gentil. Elle fait, ah ouais, non, mais tu connais grave des trucs, mais on savait pas, on pensait pas. En fait, on aurait pu me dire, oui, tu connais plein de trucs sur le théâtre, t'as lu plein de pièces et tout, c'est cool. Genre, non, on n'en a pas lu autant, mais c'est le truc de on ne pensait pas. Genre, qu'est-ce qui te fait pas penser, quoi? C'est. Enfin, on le sait très bien. Et ouais, donc ça, c'est un truc que j'ai retrouvé même plus tard quand j'ai fait des études d'histoire. Ah, mais on ne pensait pas que. C'est toujours le on ne pensait pas, comme si les gens, en fait, selon ta tête et ton prénom, ils avaient déjà écrit ta biographie, que tu vivais dans une cité HLM, dont elle est superposée avec tes 15 frères et sœurs. Et aussi de la part des racisés, de mes amis, c'est un truc que j'entendais beaucoup aussi. Par exemple, le fait que je lisais tout le temps, je leur disais, mais non, mais c'est cool, tu devrais lire ça, en plus c'est facile à lire pour commencer et tout. Parce que moi je suis très. C'est comme quand tu regardes une série, t'as envie que tout le monde la regarde, comme ça tu vas débriefer. Bah, pour un livre, c'est pareil. Et du coup, mes potes, ils me disaient, mais non, mais c'est un truc de blanc, ah non, mais c'est un truc de riche. Alors que non, en fait, je sais pas, tu vas bah, au Maroc, il y a Zeynep Fessiki qui est autrice et c'est pas une blanche, c'est pas. Enfin, voilà quoi. Donc, ouais, c'est un truc. Je trouve ça dommage parce que des deux côtés, en fait, t'as l'impression que soit c'est pas pour toi, soit tu vas. C'est un truc où tu te la pètes parce que soi-disant c'est pas pour nous alors que c'est faux. Et d'un autre côté, t'as l'impression d'être un peu le singe savant, quoi. Genre, limite, on va t'applaudir parce que t'as lu un livre, parce que tu sais lire et écrire, quoi. Voilà. Je pense que depuis que j'ai commencé à lire, j'ai eu cette envie d'écrire. Parce que forcément, quand on lit, on se dit, c'est génial, quoi. Il y a des personnages, il parle d'un truc, il te fait ressentir des choses, il te fait réfléchir et tout. Et du coup, moi, je sais pas, genre, plein de fois, je me disais, mais moi aussi, genre, je pourrais trop raconter cette histoire-là, parce que moi aussi, je pourrais dire ça, je pourrais communiquer sur ça, je pourrais faire parler tel personnage, etc. Donc, du coup, depuis très longtemps, j'ai commencé à lire, mais après, à écrire, pardon. Mais après, c'est pas, j'écris pas des romans, quoi, j'écris vraiment des petits trucs, genre, des petites scènes ou des choses comme ça. Après, c'est pas du tout pour être publié ou quoi, j'écris pas dans cette envie-là, mais plus parce que déjà c'est quelque chose qui me fait du bien de pouvoir. Je pense que les auteurs, quand ils écrivent aussi, c'est pas forcément que des choses qui sortent de leur tête. Je pense par exemple au livre Martha Eden de Jack London, quand il écrit sur la société bourgeoise de la fin du 19e siècle. Dans ce roman-là, c'est aussi sa société à lui, c'est parce qu'il a aussi envie de critiquer et de shamer des gens. Donc, du coup, il le fait aussi par le biais de la fiction. Et moi, je dis pas que je suis Jack London, bien sûr, mais des fois, ouais, des fois, genre quand j'en ai marre, quand je ressens trop de pression, et je trouve que surtout aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a tellement de violence, mais c'est de la violence quand. C'est pas de la violence qu'on voit à l'œil nu, c'est de la violence qu'on se prend tous les jours en se réveillant le matin, en prenant les transports, en allant sur les réseaux sociaux, tu vas au travail, tu prends grave de. Enfin, t'es tout le temps constamment sous pression, faut toujours faire mieux, faut toujours se faire voir. T'as des gens qui vont. Enfin, voilà quoi, qui vont animer des trucs toxiques chez toi. Et je trouve qu'on n'a pas de temps de recul en fait pour se dire, pour un peu dégager tout ça. Et certains le font dans le sport. Moi je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans l'écrit. Et écrire, c'est pas forcément écrire des proses ou je sais pas quoi, avoir une plume de fou, mais c'est juste en fait t'as envie d'écrire, t'as envie de cracher quelque chose parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et tu le fais. Et bah, il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai lu Qui a tué mon père d'Édouard Louis, et je trouve que c'est quelque chose qu'il fait lui aussi, c'est que en fait, c'est toute cette pression-là, toute cette accumulation-là qu'il a eue dans son milieu, qui est un milieu pauvre, ouvrier, etc. Bah, il l'a écrit. Et moi, c'est quelque chose qui me fait du bien aussi de pouvoir un peu me lire. En fait, c'est comme aller chez le psy, mais sauf qu'il n'y a personne qui t'écoute, quoi. C'est toi qui écris. mon style de prédilection, c'est le roman. C'est pas vraiment mon style, enfin, si c'est mon style de prédilection, parce que c'est celui qui m'est le plus familier, c'est celui que j'ai le plus lu, que ce soit à l'école et que ce soit en dehors. C'est celui, voilà, c'est le premier, les premières choses qu'on lit en général dans notre vie, c'est les romans. Et c'est aussi moins déconcertant. Il y a début, milieu, fin, donc on s'y retrouve, ça reste abordable. Etc. Donc, ouais, c'est ce que je lis le plus, mais dernièrement, j'essaye un peu de m'ouvrir à d'autres genres comme la bande dessinée, le roman graphique. Donc, comme là, avec Archouma de Zeynep Fassiki, parce que c'est un style en fait. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec, mais je le vois comme quelque chose d'enfantin en fait pour les enfants, qu'ils soient à la maternelle, à la primaire. Mais c'est pas quelque chose qui a été valorisé pendant très longtemps. Ce qui a été valorisé, c'est plus les gros romans avec plein de mots, aucune image, genre on dit plein de choses métaphysiques dedans et super intéressantes. Alors que là, dernièrement, bah, par exemple, avec ce roman graphique-là, on peut parler de sujets de société, de sujets actuels, dénoncer, dire des choses concrètes avec un roman graphique, c'est possible. Après, un autre style aussi auquel je m'ouvre, c'est la poésie, qui donc j'ai étudié la poésie, les fleurs du mal, etc. à l'école comme tout le monde, mais c'est un style que je voyais vachement comme très noble en fait. C'est pas genre pour moi fallait être un peu pas à fleur de peau, mais genre tu sais le truc un peu avec ton verre de vin et ta clope en train de lire un poème et t'es touché. Mais en vrai, je me rends compte que j'écoute de la poésie. Enfin, je lis de la poésie depuis toujours parce que j'écoute du rap. Donc, enfin, quand on prend des. Je sais pas à quel rappeur je pense, mais par exemple Akhenaton, MC Solar, pour moi c'est de la poésie. Après. J'ai l'impression aussi ça il y a une appropriation de ce style-là parce que c'est comme j'ai dit, c'est quelque chose d'assez condescendant. Il y a des règles très précises, enfin, de ce que je me souviens, il y avait des règles très précises, des références très précises. Si un tel vers finit en je sais pas quoi, après on peut pas commencer en je sais pas quoi, etc. Et il y a pas très longtemps, j'ai lu des poèmes de Kiemis. Donc, qui est une poétesse afroféministe. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, elle se réapproprie ce style-là, ce genre-là, qui peut être vu comme archi lointain, en fait. Enfin, moi, je sais pas, quand je lisais Les Fleurs du Mal et tout, c'était pas des choses qui me touchaient. Et c'était des choses, surtout, j'avais l'impression, c'est vraiment le truc. Quand on dit le spleen baudelairien, c'est vraiment genre le mal-être et tout. Alors que Kémis. Et d'autres poétesses aussi, beaucoup déracisées, j'ai l'impression. Après, je sais pas, c'est juste une impression comme ça, mais c'est vraiment très revendicatif. C'est vraiment pour s'affirmer en fait. Et ce qui est génial avec ce format-là, c'est que bah, c'est tout le monde peut le lire. Et il y a une vraie facilité en fait. Il suffit d'une tournure de phrase, d'un mot précis dans un vers pour que ça te touche. Et aussi, ce qui est génial, c'est que c'est très visuel. Donc du coup, c'est vraiment je pense qu'un poème aujourd'hui, moi quand j'ai lu ceux de Kiemis, c'est vraiment en fait, ça a été visuel et ça allait tout droit quoi, ça m'a vraiment touchée. Ce qui est un peu plus différent avec le roman où tu dois des fois un peu t'acclimater ou t'as un peu du mal à entrer dedans. Pour découvrir des auteurs et de nouvelles publications, en général, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est vachement bien parce que Il y a énormément de gens, par exemple, qui se plaignent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de bêtises, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais je trouve que les réseaux sociaux, ça a aussi cet avantage-là d'avoir démocratisé l'accès aux livres, l'accès aux critiques, l'accès aux recommandations. Enfin, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas forcément tout ça. J'allais à la médiathèque et j'étais un peu... C'était bien aussi parce que du coup je faisais mes découvertes toute seule, mais il y a une communauté qui se crée autour de la littérature et même, enfin, tout simplement autour de la littérature déracisée. Avant aussi, je pense, un des trucs pour lequel je ne connaissais pas l'existence de ces auteurs-là et ça ne venait même pas à l'idée d'aller les lire, c'est qu'en fait, on m'en parlait pas et j'avais pas l'impression que ça impressionne des gens. Et franchement, quand je regarde des jeunes filles qui sont plus jeunes que moi, qui sont racisées et je vois qu'elles connaissent vraiment énormément de livres, qu'elles sont très pointues sur des questions, qu'elles ont conscience en fait de ce qu'elles sont, de leur identité. Et je pense que c'est beaucoup aussi grâce aux réseaux sociaux parce que aujourd'hui, bah, on peut parler de questions, je sais pas, de féminisme, d'être musulmane et féministe, etc. grâce aux réseaux sociaux et échanger un réel savoir, échanger des livres, etc. Donc, ouais, les réseaux sociaux, c'est, je suis très très attentive aux recommandations. Ça peut être des personnalités que je vais suivre, qui vont recommander tel ou tel livre pour telle question. Je trouve ça cool aussi que certaines autrices et auteurs se mettent aussi sur les réseaux sociaux. Je pense à Kaoutar Archi. Que je suis sur Twitter par exemple, qui va conseiller plusieurs choses, que je vais aller voir, que je vais aller lire. Je pense à Mona Chollet aussi. Voilà. Après, c'est beaucoup aussi des recommandations avec mes amis, parce qu'on s'intéresse en général aux mêmes choses et pas que aux mêmes choses aussi. Mais c'est un peu comme les séries et les films, quoi. Quand tu lis un livre trop bien, tu vas aller en parler aux gens autour de toi. Et c'est beaucoup aussi les recommandations, que ce soit dans des podcasts, dans des émissions que j'aime bien. Mon rituel de lecture, je lis beaucoup dans les transports. Donc, comme j'habite en banlieue parisienne, dans le 93, du coup, j'ai toujours eu beaucoup de chemin à faire, de distance à parcourir. Donc, du coup, ouais, beaucoup dans les RER, beaucoup dans le métro, même si au début ça me paraissait un peu compliqué. Mais à force, bah, quand on fait un trajet. De 40 minutes voire 1 heure, on sent plus le trajet, donc du coup, on a aussi envie de rentabiliser ce temps-là. Donc beaucoup ouais, dans les transports, que ce soit à l'aller, au retour. Je lis beaucoup aussi quand je suis en vacances parce que ça permet aussi de me reposer. En fait, c'est vraiment une activité qui me repose de lire. Donc du coup, ouais, pendant les vacances, quand je suis à la plage ou même quand j'aime être dans un cadre calme et juste lire. Et aussi beaucoup avant de dormir parce que je fais beaucoup d'anxiété, je fais beaucoup de crises d'anxiété et en général ça arrive le soir avant de dormir où tu te rappelles toutes les choses que tu dois faire que t'as pas faites et qu'est-ce que tu vas faire de... Bref, je suis ce genre de personne qui commence à avoir des questions existentielles 5 minutes avant de dormir. Donc du coup, et en plus de ça arrangeait pas les choses parce qu'après j'allais regarder sur mon téléphone pour regarder un truc, pour un peu réfléchir à autre chose, mais c'était encore pire. Donc du coup, maintenant c'est... En fait, genre, c'est un peu un des remèdes, même si je fais toujours de l'anxiété et tout, mais un de mes remèdes, c'est vraiment de me prendre du temps pour moi avant de dormir. J'oublie mon ordi, j'oublie mon téléphone, j'oublie tout, je prends mon livre, je me pose, je lis. Et ça va me détendre vraiment. Ça va me détendre, je vais penser à autre chose, ça va me faire un peu me... En fait, je vais me concentrer sur quelque chose et aussi ça va m'aider à dormir. Oui, forcément, dans le métro, dans les transports, en général, quand je lis, on est plusieurs à lire. Oui, je vais me sentir connectée avec la personne, par exemple, qui est en face de moi, qui est en train de lire, parce que bah, forcément, on partage cette même expérience-là. Avant, je jugeais pas mal les gens, parce que j'étais une bad bitch, je jugeais les gens qui lisaient. Des auteurs qui étaient pas, voilà, que j'estimais pas forcément, mais en vrai, je me dis, en fait, j'ai moins ce truc-là de, c'est parce qu'aussi, c'est comme ça qu'on appréhende la littérature, il y a la bonne littérature, la mauvaise littérature, et en fait, je me dis, C'est comme si tu disais, il y a le sport, genre, mais même ça en vrai, il y a de l'élitisme partout, c'est incroyable. Bref, mais oui, avant je jugeais les gens, mais en vrai maintenant je me dis, c'est quoi, la personne qui lit ne serait-ce que le 20 minutes le matin, bah, ça lui fait quand même de la lecture, et puis c'est petit à petit qu'on y arrive. Mais ouais, je vais me sentir connectée à ces gens-là. Et des fois, quand je vois par exemple une personne qui lit un livre ou un roman que j'aime bien, là vraiment je vais être en mode bien ouais-je. Et aussi j'aime bien, je sais que ça énerve beaucoup de gens d'ailleurs, quand t'as ton livre et qu'il y a des gens qui viennent comme ça au-dessus de ton épaule pour lire, mais moi j'aime bien, je me dis que je partage quelque chose avec quelqu'un et c'est pas juste ce truc-là d'avoir un livre et de lire dans les transports et que peut-être ça peut donner envie à la personne de lire aussi. Le premier livre que je recommande, du coup, c'est Les cerfs volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Je recommande ce livre parce que moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Forcément, c'est un des premiers livres d'auteurs racisés que je lis. Je le recommande parce que c'est un livre qui aborde vraiment énormément de choses, que ça soit l'histoire de l'exil, à travers donc cette histoire-là de petits garçons. Donc l'exil de l'Afghanistan jusqu'aux États-Unis. C'est un livre aussi qui parle d'une période de l'histoire de l'Afghanistan. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un livre géopolitique ou qui va permettre à tout le monde de comprendre la situation de l'Afghanistan, mais en fait c'est une porte d'entrée et c'est vraiment la petite histoire qui raconte la grande. Et moi je sais qu'après avoir lu ce livre-là, je me suis intéressée à l'histoire de l'Afghanistan, ce qui s'était passé aussi à ce moment-là. Donc je trouve ça intéressant de rentrer dans ces actualités-là par des romans. Et aussi ça parle beaucoup de contexte social, d'un peu d'un paradis perdu qu'on quitte quand on est enfant et puis de retourner et de retrouver un pays qui est totalement différent. Et ben, pour l'honnêteté, la sincérité de l'écriture de Khaled Hosseini, c'est pas du m'as-tu vu, c'est pas regardez, je vais vous raconter une histoire symbolique. En fait, toutes les significations de ce roman-là, elles passent, mais elles passent vraiment de façon très subtile, quoi. Il n'y a pas de grands mots, il n'y a pas de grands sentiments. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une très 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 belle histoire. Le deuxième livre que je recommande, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est une œuvre assez lourde, mais qui, pour moi, genre, c'est. En fait, je trouve que c'est un livre qui s'adresse beaucoup aux gens qui disent que lire, c'est l'ennui et qui préfèrent enfin, de se dire, ouais, lire, c'est l'ennui, c'est pas forcément quelque chose de stimulant, etc. Parce que Le Comte de Monte-Cristo, c'est vraiment. En fait, c'est comme si c'était une série. En fait, je suis sûre qu'on pourrait en faire une série HBO, genre Game of Thrones, quoi. Parce qu'il y a tellement de personnages, c'est super bien travaillé, les décors sont super bien travaillés, ça se passe à Marseille, tout est vraiment décrit dans les moindres détails. Et c'est une histoire de vengeance, de quelqu'un qui veut se faire justice. Qui veut se faire justice, qui prend une autre identité. Et c'est un très 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 grand roman et c'est vraiment passionnant, même sur le propos de cette œuvre-là. C'est comment se faire vengeance. Ça fait beaucoup aussi réfléchir sur les notions de rancœur, des sentiments qu'on peut éprouver envers les gens, etc. Donc ouais, je recommande, même si c'est pas évident à lire et ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'adaptations sur cette œuvre-là. Et le troisième livre que je recommande, c'est Marc et la poupée de Mariam Madjidi, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof de théâtre quand j'étais au lycée. Et qui est donc une autrice franco-iranienne. Et en gros, bon, elle n'écrit pas telle quelle, dans le livre, mais c'est un peu son histoire à elle. Donc, elle est née en Iran, qu'elle quitte très jeune parce que y a eu la révolution et ses parents, eux, étaient de gauche, ils croyaient à un État laïque et du coup, ils sont pas convaincus par la politique qui est menée en Iran, donc ils décident de partir en France. Et moi, je me suis reconnue beaucoup aussi par rapport, bah, toujours à cette histoire d'exil, quoi, de quitter un pays, de quitter une langue. Elle parle vachement, bah, de la langue. Du fait qu'elle utilise de très belles métaphores, de très très belles images. Et tout à l'heure, je disais que le roman, ça peut être, c'est moins déconcertant. Elle, pour le coup, le style qu'elle aborde dans ce roman-là, il est un peu déconcertant parce qu'on passe d'une phase à une autre, d'un chapitre à un autre. Elle va employer la première personne du singulier, ensuite la troisième personne du singulier. Et en fait, il n'y a pas de fil conducteur. En fait, on sent vraiment que c'est j'ai des expériences, je les mets, ça me libère et je les partage avec les gens. Et il y a aussi ce questionnement-là aussi par rapport au fait d'être une femme, donc, dans son cas, elle, iranienne, de refuser d'être placée, d'être mise dans une case orientaliste, etc. Mais elle parle aussi du fait qu'elle en joue. Elle joue du truc un peu mystérieux d'être une femme perse, etc. Mais qu'elle, elle a le droit de le faire et que les autres, ils n'ont pas le droit de le faire. Et je trouve que c'est super intéressant à analyser. Depuis cette année, j'ai lancé le podcast Arabia Vox. Donc Arabia Vox, c'est venu d'un constat de plein de choses. Déjà, moi, par rapport à mon identité en tant que jeune Tunisienne qui a grandi en Tunisie, qui est venue en France, qui s'est reniée pendant plusieurs années pour correspondre à un certain modèle et qui, du jour au lendemain, s'est rendu compte qu'en fait, bah, c'est pas ce que je suis. C'est un podcast qui questionne l'arabité à travers des entretiens avec des personnes qui sont issues de la communauté. Enfin, de la diaspora du monde arabe, de la diaspora et du monde arabe. Et c'est des personnes qui sont inspirantes, qui font bouger les lignes, qui œuvrent dans plusieurs domaines, que ça soit politique, associatif, culturel. Et en fait, c'est vraiment faire entendre des parcours, des bouts de vie qui peuvent être inspirants et qui peuvent aussi aider d'autres personnes à se reconnaître en eux et à faire avancer les choses et de se sentir aussi moins seul et de se dire qu'on n'est pas obligé en fait de plaire à telle personne et de suivre tel dictat pour pouvoir être accepté. Et c'est aussi un projet que j'ai construit par rapport à moi, à mon identité et au fait que j'ai redécouvert apprécier mon identité, en tout cas dans un espace public, parce que dans l'espace privé, je l'ai toujours fait. Et c'est aussi quelque chose qui m'a été insufflé par toutes les initiatives que je voyais autour de moi, que ce soit des collectifs, des médias qui se mettent en place pour parler de ces questions-là, d'être un enfant d'immigré, de venir de milieu populaire, d'être en accord avec tout ce qu'on est. Et je trouvais ça super intéressant et j'avais envie d'y contribuer aussi.
On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait de lecteur ou lectrice avec Jamais sans mon livre sur Dialna.